Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Avant de recevoir mon invité de la semaine, l'interview de la semaine, le sénateur Monsieur Fabien Gay, je voudrais, vous savez, avoir et remercier, dire un grand merci. Je vais vous dire la vérité, je suis un peu ému et je vais essayer de ne pas craquer parce que j'ai perdu ma mère, ma maman, donc évidemment, et au sein de la famille Farkan, vous le savez évidemment, qu'on est tous bouleversés de mon père jusqu'à mes sœurs et frères, que je soutiens évidemment de façon ferme. Je voulais remercier les intellectuels, je m'y attendais pas du tout, les intellectuels, les écrivains, les chefs d'entreprise, vous aussi les auditeurs. Vous avez été très 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 nombreux, vraiment très nombreux, à m'écrire des messages d'hommage, de sympathie, des hommages aussi de compassion, de solidarité, de soutien. J'ai reçu des messages de rappeurs, enfin bref, tous, je vais pas les citer un à un, mais je voudrais les remercier tous du fond du cœur pour évidemment leur message de condoléances et surtout de soutien. Ça nous a réchauffé le cœur. J'ai fait part aussi de cela à ma famille. Ça les a aussi réchauffés. Donc merci infiniment à vous tous et sachez que, évidemment, ma mère est toujours parmi nous, même si elle a quitté ce monde, qu'elle repose en paix, comment dire, la rahma, et surtout, évidemment, on poursuivra ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire donner des valeurs, et puis surtout, donner du sens à notre vie. Donc, on va poursuivre, évidemment, ce qu'elle nous a donné, et plus que jamais, comme vous le savez, mon dicton, on ne lâchera jamais rien. Jamais rien. Et le combat continue.
Voilà que ça commence. Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Je vais recevoir l'interview de la semaine.
Le grand déballage, l'interview de la semaine.
L'interview de la semaine, c'est avec le sénateur, Monsieur Fabien Gay. Bonjour, Monsieur le sénateur.
Bonjour, Monsieur Farkan. Et permettez-moi de commencer. Je viens de vous entendre. Vous venez de dire que vous aviez perdu votre maman, je ne le savais pas. Je vous présente mes sincères condoléances.
Merci.
Et à ce moment-là, on se connaît un peu, mais pas beaucoup. Mais soyez assurés de toute ma solidarité, de ma fraternité dans ce moment douloureux pour vous et vos proches. Voilà.
Merci, mon cher Fabien Gay. Évidemment, on se connaît, donc merci à vous, évidemment, pour votre message. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le sénateur. On va parler du confinement et on va parler surtout de la vaccination et de la gestion crise. Un petit regard autour, évidemment, de cette gestion. Comment vous la vivez, vous, puisque vous êtes le sénateur de la Seine-Saint-Denis, alors que la Seine-Saint-Denis, ça devient de plus en plus compliqué, on va en parler.
C'est évidemment un moment extrêmement difficile. On s'était déjà eu sur votre antenne au moment du premier confinement. Et plus qu'ailleurs, les inégalités font que ce confinement est plus mal vécu qu'ailleurs. Parce que les logements sont plus exigus, que les difficultés sont plus grandes. Notamment parce que beaucoup de gens ont peu de revenus, ont peu de moyens. Les soupes populaires nous disent qu'elles accueillent beaucoup de monde depuis un an, des gens qu'elle n'avait jamais vus, et les inégalités se sont accrues pendant ce confinement, et on l'a vu d'ailleurs, même le FMI le dit, que les inégalités sont devenues tellement insupportables qu'il allait falloir partager un peu plus, vous voyez, qu'il allait falloir taxer les riches et les grandes entreprises qui avaient profité de cette crise pour en fait réduire ces inégalités. Donc oui, mon département, notre département, est plus touché qu'un autre.
Alors, en Seine-Saint-Denis, parlons-en, monsieur le sénateur. Le nombre de décès est en hausse de 25% en 2020. Et il cesse évidemment de monter. Quand on regarde évidemment cette étude qui a été publiée récemment, c'est-à-dire le 8 avril de cette année, il a enregistré 25% de décès supplémentaires en raison de la crise, donc du Covid-19. La Seine-Saint-Denis, est-ce qu'elle n'est pas en train de payer un lourd tribut?
Elle paye un très très lourd tribut qui pourrait se résumer simplement. Nous sommes plus exposés, plus contaminés que d'autres, parce que justement, nous avons beaucoup de personnes qui sont en première ligne dans cette crise et qui ont continué à aller au travail pour tenir la nation. Ce sont des livreurs, des caissiers et des caissières, des aides-soignants et des aides-soignantes, des infirmiers et des infirmières, c'est-à-dire les gens qui ont tenu la tranchée pour que nous ne tombions pas. Et puis, nous sommes, à côté de ça, les moins soignés et les moins vaccinés. Pour vous donner un seul chiffre, monsieur Farkan, pour bien que l'on comprenne. En Seine-Saint-Denis, nous disposons de 107 lits de réanimation pour 1,7 million d'habitants. Ben c'est insupportable, c'est deux fois moins qu'à Paris. En population, si on la comparait à de populations égales, évidemment, il y a un peu plus de Parisiens que de séquano-donisiens. Mais ça, c'est un désert médical au même titre qu'un certain nombre de départements ruraux ou de départements d'outre-mer. Et à côté de ça, on a une vaccination qui est très faible. Nous en sommes à 150 000 personnes qui ont reçu la première dose et un peu moins de 50 000 qui ont reçu les deux doses, c'est-à-dire une vaccination complète. Et dans les 150 000 qui ont reçu la première dose, on estime qu'un tiers vient de d'autres départements.
Oui, parce que, monsieur le sénateur, vous savez, j'ai des chiffres. On parle quand même d'une hausse qui va jusqu'à 53% de hausse à Villetaneuse. On parle des départements qui sont extrêmement touchés. Bobigny, Stains, Lille-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine. C'est affolant quand on voit ces chiffres de mortalité qui grimpent jusqu'à 53%, monsieur le sénateur. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une réaction de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la population est suffisamment sensibilisée?
Elle est suffisamment sensibilisée, et j'ai envie de dire, comme l'ensemble des Françaises et des Français, elle respecte les gestes barrières, elle respecte le confinement, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que nous sommes plus exposés parce qu'il y a plus de gens qui vont au travail et moins de télétravail possible lorsqu'on est un ouvrier ou un employé que lorsqu'on est un cadre, et nous avons moins de cadres en Seine-Saint-Denis au global que dans les départements voisins, par exemple nos Hauts-de-Seine. Donc les gens sont obligés d'emprunter les transports en commun pour aller au travail. Et en même temps, nous avons des inégalités sociales, mais aussi des inégalités d'accès aux services publics. Nous avons moins de docteurs que dans les autres départements. Nous avons moins de lits d'hôpitaux qu'ailleurs. 107 lits de réanimation, écoutez-moi bien, 107 lits pour l'ensemble du département. Donc c'est en fait des inégalités que l'on connaissait avant la crise et que nous dénoncions, ce manque de moyens dans les services publics en Seine-Saint-Denis, mais on pourrait l'allonger la liste. C'est la même chose sur la question de policiers, c'est la même chose de la question de la justice, c'est la même question autour de l'éducation, des transports, bref, dans tous les services publics.
Vous êtes en train de dire, monsieur Fabien Gay, monsieur le sénateur, que la situation hospitalière est préoccupante?
Mais bien sûr qu'elle est préoccupante. Mais nous n'avons eu de cesse de le dénoncer, écoutez-moi bien, monsieur Karkan, depuis des années et des années, et l'ensemble des élus communistes, mais j'ai envie d'y associer l'ensemble des élus du département, quelle que soit leur couleur politique. Parce que, droite-gauche confondue, nous alertions depuis des années, et d'ailleurs, le premier ministre d'alors, Édouard Philippe, juste avant le Covid, était venu à Bobigny, avait reçu les parlementaires et les élus, je dirais, de l'ensemble des municipalités pour leur dire qu'il reconnaissait que la Seine-Saint-Denis était frappée d'inégalités républicaines. Et donc, il y a un plan de rattrapage dans un certain nombre de domaines qui est à l'œuvre, mais la crise du Covid est venue par là et a accru ces inégalités. Donc, il faut un plan de rattrapage, mais très rapidement, maintenant, il faut réouvrir des lits d'hôpitaux. Et puis, écoutez bien une chose, monsieur Marcane. En pleine crise du Covid, on continue à fermer des lits d'hôpitaux. C'est la chose, par exemple, l'hôpital de Jean Verdier à Bondy, il est en train de fermer en pleine crise du Covid. Et puis, il y a surtout l'affaire des hôpitaux parisiens Bichat et Beaujon qui devraient fermer. Et ça aussi, c'est une véritable question parce que des habitants de la Seine-Saint-Denis s'y rendaient. Et donc, en pleine crise du Covid, nous disons une chose,
alors, il faut fermer aucun lit. Quand je vous écoute, quand je vous entends parler, ma question évidemment est la suivante. Est-ce que la situation semble être devenue ingérable face à ce que vous êtes en train de nous dire?
Non, pas ingérable. Elle est extrêmement préoccupante, mais c'est un choix politique. Et il faut mettre des moyens de suite, d'abord pour un moratoire contre les fermetures de lits d'hôpitaux, et puis il faut faire ce que demande le personnel soignant depuis un an. Il faut réouvrir à côté de ça des lits d'hôpitaux, sinon nous ne nous en sortirons pas. Il faut ensuite accélérer la vaccination, en Seine-Saint-Denis comme partout ailleurs, parce que il n'y a pas que mon département qui souffre. Ouais. L'ensemble des Françaises et des Français, où qu'ils soient, qu'ils soient en France métropolitaine ou dans les Outre-mer, est frappé par cette crise du Covid. Il faut vacciner plus rapidement.
Alors, justement, faut-il accélérer la vaccination, justement, en prévision d'une reprise scolaire? Comment ça va se passer en Seine-Saint-Denis? Quel est le plan, justement, pour aller, évidemment, accélérer la vaccination auprès de la population de la Seine-Saint-Denis?
Alors, il y a un vaccinodrome qui a ouvert au Stade de France, qui permet à l'ensemble des Franciliens d'y venir. Mais il y a aussi des doses réservées aux fécano-donisiens. Il y a aussi, à côté de ça, 21 centres de vaccination de proximité. Nous, nous disons que les deux ne s'opposent pas, mais qu'il faut continuer à ouvrir des centres de proximité, parce que, par exemple, une ville de Stein, vous l'avez cité tout à l'heure, avec mon ami Asdine Taibi, ne cesse de plaider pour ouvrir un centre de vaccination à Stein, parce que les Stanois et les Stanoises ont du mal à se déplacer. C'est des populations fragilisées, c'est des populations qui ont difficilement accès à des transports en commun qui sont eux-mêmes compliqués. Donc, une des réussites et une des clés de la vaccination rapide, c'est des centres de vaccination, je dirais, de proximité.
Oui.
Mais écoutez-moi bien,
Farkan,
j'ai juste un mot à vous dire.
Oui.
Ceci n'est pas possible s'il n'y a pas une chose que fait Emmanuel Macron.
C'est-à-dire...
Il faut lever les brevets sur les vaccins. Les vaccins doivent être un bien commun de l'humanité. Mmh. Écoutez bien le chiffre que je vais vous donner.
Oui.
12 pays au monde se partagent 70% des doses disponibles dans le monde. Et les 50 pays les plus pauvres, écoutez bien ce que je vous dis, Monsieur Farkan, les 50 pays les plus pauvres ont 0,1% des doses.
Ah, oui.
Donc, nous avons une question. C'est un défi d'humanité, de solidarité internationale, mais aussi une question politique et économique. Nous, nous sommes un pays qui a vocation à réouvrir parce que nous sommes le premier pays touristique au monde.
Oui.
Et personne ne peut croire qu'une fois que nous aurons vacciné l'ensemble des Français et des Européens, notre vie reprendra si la moitié de la population mondiale...
Alors,
écoutez-moi,
la
moitié de la population mondiale n'a pas accès au vaccin. Le vaccin, on ne doit pas faire de profit dessus et il doit être accessible à tous les peuples dans le monde entier. Donc il faut lever les brevets. Et pour l'instant, Emmanuel Macron le refuse alors que 100 pays dans le monde le demandent, que l'OMS le demande, que Joe Biden, le président des États-Unis, qui n'est pas communiste comme moi, le demande, et même le pape vient de prendre position pour dire que le vaccin devait être un bien commun d'humanité.
Ouais.
Emmanuel Macron s'y oppose, et c'est ça qui fait que nous n'avons pas de doses aujourd'hui. Et donc,
la France est en train de se tromper de stratégie de vaccination
Oui, oui, monsieur Farkan. Si nous ne levons pas la propriété des brevets, qui est un traité signé en 94 à l'OMC, si nous ne levons pas ça, alors nous restons pieds poings liés
avec Emmanuel,
les grands groupes pharmaceutiques.
Et pourtant Emmanuel Macron, le président de la République, il dit suivre les recommandations des autorités sanitaires.
Mais la question n'est pas là. Oui, on suit les recommandations, mais on reste pieds et poings liés à la volonté des grands groupes pharmaceutiques, qui eux n'ont qu'un intérêt, pas l'intérêt général, l'intérêt privé. Vous voyez, le président de Moderna, il était millionnaire avant la crise. Il est aujourd'hui classé dans les milliardaires français. Vous entendez bien ce que je vous dis. C'est ça la question fondamentale. Il faut lever les brevets, produire et qu'ils soient accessibles à toute l'humanité, aux Français, aux Européens et à tous les peuples dans le monde. Voilà la seule sortie de crise possible et viable et rapide. Et beaucoup de monde commence à le demander et pas seulement le Parti communiste français.
Dites-moi, monsieur le sénateur, monsieur Fabien Gay, est-ce qu'aujourd'hui, question très simple, on doit rendre le vaccin obligatoire avec ce fameux passeport ?
Moi, je considère depuis le début qu'il faut garantir l'accès. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, garantir l'accès. Et donc, que chacun et chacune qui souhaite se faire vacciner, par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, je souhaite me faire vacciner. Quand ça sera mon tour, j'ai 37 ans, j'irai me faire vacciner.
Oui.
Donc, il faut que tout le monde qui a envie de se faire vacciner y ait accès.
Oui.
Ensuite, il y a le débat, est-ce qu'il faut comprendre ou convaincre ? Moi, je suis plutôt de la deuxième étape. Il faut convaincre les gens.
Oui.
Une des sorties de crise, c'est évidemment de donner les moyens aux hôpitaux publics de soigner correctement les gens. Le deuxième moyen, il y a des traitements qui sont pour l'instant balbutiants, mais qui pourraient marcher, notamment l'Institut Pasteur a essayé de développer des choses.
Oui.
Donc il faut donner les moyens à la recherche d'aller au bout sur la question du traitement. Et après, la troisième chose, c'est se faire vacciner avec l'ensemble des vaccins disponibles. Et donc là, il est important que chacun qui a envie de se faire vacciner puisse l'avoir le plus rapidement possible.
Ouais.
Voilà. Et moi, je préfère qu'on fasse de l'éducation populaire en essayant de convaincre les gens qu'il faut se faire vacciner plutôt que de les contraindre. Parce que si on essaie de les contraindre,
qu'est-ce que vous
ça
répondez à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui et qui sont indécis, qui sont en train de se dire bon, finalement, ce vaccin, on hésite parce qu'on connaît les. Certains vont répondre qu'on connaît les effets secondaires, que c'est trop tôt pour se faire vacciner. Vous leur répondez quoi ?
Mais bien sûr, mais vous savez, monsieur Farkad, J'ai des gens autour de moi qui se posent la question et je peux les comprendre qu'ils se posent la question. Par exemple, la question de l'affaire de AstraZeneca, on a dit d'abord que les plus de 65 ans ne pouvaient pas se faire vacciner avec ce vaccin. Après, on l'a suspendu quelques jours. Maintenant, on explique que c'est que pour les anciens que ce vaccin serait disponible. Donc, je comprends que les retournements du gouvernement fassent hésiter les gens. Et puis, c'est vrai, c'est un défi scientifique. C'est la première fois qu'on développe un vaccin en une année. Donc, on ne connaît pas l'ensemble des effets secondaires.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une question que, sans tomber dans la théorie du complot, des gens peuvent sincèrement se poser la question. Je le comprends. Mais là, il y a des millions de personnes qui se sont déjà fait vacciner. Il y a des effets. Les effets sont extrêmement limités, comme dans l'ensemble des vaccins. Et c'est une des sorties de crise. Après, je suis, monsieur Farkan, ni docteur, ni épidémiologiste. Donc, c'est pas moi qui vous donnerai un avis scientifique.
Oui,
moi, j'ai un avis politique. Je vous le dis, une des sorties de crise, c'est la vaccination.
Monsieur Fabien Gay, sénateur de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le sénateur, merci infiniment d'avoir été avec nous dans le Grand Déballage. À très bientôt.
À très bientôt, monsieur Farkan.
Merci à vous. 17h18, 01 53 48 3000. Je vous attends tout de suite. Le standard est ouvert. Je voudrais vous entendre. Faut-il vous faire vacciner? Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Est-ce que vous irez vous faire vacciner? À tout de suite, 01 53 48 3000.
Beurre FM, 17h, 19h, le Grand Déballage, avec Adil Farkan.
7h26 précisément dans le Grand Déballage, et bien sûr, on vous attend 0153 48 3000 si vous souhaitez évidemment intervenir sur les quatre sujets qui ont retenu notre attention. Je vais parler donc des discriminations, également aussi, vous savez, parler de du confinement. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde est en train de respecter le confinement? La vaccination, est-ce que vous comptez vous faire vacciner? Tiens. Question intéressante quand même. Hein. Je vous poserai la question, chers amis influenceurs. Oui, j'aimerais savoir aussi si vous comptez vous faire vacciner. 0153 48 3000, je vous attends tout de suite pour répondre évidemment à toutes ces questions partout en France. Je vais accueillir les influenceurs avant de retrouver Pascal Boniface. Mes chers amis, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver,
mais
évidemment,
juste, oui,
après une longue absence que vous connaissez. Emmanuel Dupuy, ben, bonjour.
Moi, personnellement, ça me fait extrêmement plaisir à double titre de te retrouver, Adil, parce que tu as vécu des moments un petit peu particuliers et nous avons marqué, nous sommes nombreux à avoir marqué notre solidarité et nous continuons
c'est
à le faire.
C'est vrai, j'y remercie.
Tu sais que nous pouvons, que tu peux t'appuyer, pardon, sur nous. Et puis, je suis très content de retrouver Thomas, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Enfin, on a eu
Thomas Guénolé.
Maintes fois, Thomas Guénolé. On a eu maintes fois l'occasion de travailler ensemble au niveau politique, mais de viser et de jouter sur un plateau, c'est plus rare, donc j'en suis ravi.
C'est réciproque.
Thomas Guénolé, bonjour.
Bonjour.
Plaisir de vous retrouver, dites donc.
C'est réciproque.
Ça faisait une éternité que je ne vous avais pas retrouvé en tant que débatteur influenceur chez nous.
Oui, ou même en général, de toute façon, j'ai été plus absent des médias, d'abord parce que, comment dire, le sujet de la pandémie envahit à peu près tous les médias, et donc ça change les sollicitations d'invités mécaniquement. Vous voyez beaucoup plus de médecins et beaucoup moins de politologues, en gros.
Ouais.
Ça, c'est par la force des choses,
ouais,
mais pourquoi
vrai.
Pas. Et d'autre part, de toute façon... moi-même, pour des raisons très simples d'ordre privé, c'est-à-dire maintenant je suis jeune papa.
Eh bien, félicitations, bravo, cher jeune papa.
Et donc, forcément.
Une fille, un garçon, une fille?
C'est une fille.
Vous l'avez appelée comment?
Elle s'appelle Sacha.
Sacha, welcome. Bienvenue dans ce monde, évidemment. Je ne sais pas ce qu'on va vous laisser, Sacha. Mais en tout cas, voilà.
Voilà.
Hein? Qu'est-ce que vous disiez?
Non, je disais, du coup, on est forcément moins dispo. Au moins au démarrage, tous les jeunes parents, ou moins jeunes même, ont connu ça. Au moins dans les premiers mois, surtout dans ma génération, où les pères en font un peu plus, voire beaucoup plus que les générations de pères précédentes, sans vouloir balancer.
Ouais. C'est marrant, voilà. C'était le thème d'une émission qu'on a eue ici.
Oui.
La surmobilisation
vous
des
parents. Vous vous rappelez quand vous vous étiez vu ici, c'est ça?
On en avait parlé de ça. Bah, pas avec Thomas, mais on avait parlé de ce sujet-là.
C'est quand même incroyable, il a une sacrée mémoire, Emmanuel Dupuy. Hein.
D'éléphant.
Mais c'est d'éléphant. Vrai que vous le rappeliez tout à l'heure, j'avais fait partie des premiers invités chez vous. Hein,
mais moi, je me souviens très bien, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, je ne sais pas comment on peut expliquer cette longue absence, mais bon.
Mais
vous aviez été voir d'autres médias.
Pas de problème.
Oui. Alors écoutez, il est 17h30, mais 17h30, d'ailleurs, il y a d'autres influenceurs qui arrivent là. Nadir Kaya, que j'ai vu traverser les couloirs de la radio Beurre FM, je l'ai vu, et puis Elisabeth Lévy, que vous connaissez aussi, qui fait partie des influenceurs donc sur CNews, qui a accepté volontiers évidemment de se prêter avec nous, évidemment de confronter les points de vue. 17h30.
Le Grand Déballage, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf. Et j'ai l'honneur d'accueillir Pascal Boniface. Bonjour mon cher Pascal.
Bonjour Adil, bonjour.
Pascal Boniface, le patron de l'ERIS, mais également évidemment politologue. Pascal Boniface, vous avez décidé de parler d'une polémique qui vous secoue, vous, personnellement. Alors, c'est celle de France Inter. Mais que se passe-t-il? Vous avez été blacklisté par France Inter, France Culture et le journal Le Monde. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Pascal Boniface?
Ben, c'est un peu le paradoxe. En fait, j'étais très présent dans ces trois médias dans les années 90, alors que j'étais pourtant débutant. Et en tous les cas, j'avais moins d'expérience et que l'IRIS était une structure très fragile. Et puis, bah après, effectivement, ça s'est passé en deux temps. Mon livre, Éric Israël, m'a valu quelques inimitiés. Mais pire encore, c'est quand j'ai publié Les Intérêts de Trossard, où je remettais un peu en cause des totems ouais. médiatiques. Là, bah, on a un peu considéré que j'avais dépassé les bornes, que je m'étais attaqué à la famille, à des amis d'amis. Et donc, effectivement, j'ai fait encore quelques apparitions à France Culture, mais Philippe Ball a ordonné que je ne sois plus jamais dans France Inter, et ce qui est le cas. Donc j'étais très fréquemment auparavant. Et puis Le Monde, bah, c'est très difficile. Je suis pas invité, je peux pas faire passer mes papiers. J'ai renoncé, mes bouquins sont pas cités. Je suis pas invité à leur débat, etc. Ça pour de multiples raisons de lignes politiques sur l'international, de règlement de compte personnel, etc. Bref, voilà, trois médias qui sont des médias centraux, qui par ailleurs sont de qualité pour certains. Moi, j'y apparais pas. Donc heureusement que... il y a les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a Beurre FM où je peux m'exprimer, qu'il y a d'autres médias aussi où je peux m'exprimer. J'ai voulu dénoncer un peu cette hypocrisie de se donner bonne conscience en disant on est libéraux, on donne la parole à tout le monde, alors qu'en fait, bah non, c'est pas le cas, il y a des gens... Alors bien sûr, on va me dire, et on m'a dit, oui, mais en nom de quoi tu parlerais de
gens par...
J'ai jamais pensé ça. Mais si vous voulez, ce qui m'étonne, et là j'ai pas de réponse, pourquoi j'apparaissais plus quand j'étais débutant, que maintenant où j'ai une reconnaissance à la fois nationale et internationale qui n'a plus rien à voir avec celle que j'avais dans les années 90, où donc j'étais pourtant beaucoup plus présent. Mmh.
Dites-moi, Pascal Boniface, parce que j'ai quand même regardé un peu cette histoire. La charge, on peut considérer qu'elle est rude quand même, non?
C'est la charge qui est rude ou la réalité?
Bonne question, vous avez raison. Ou la réalité?
Oui, voilà, c'est que... la directrice de France Culture m'a répondu donc c'est scandaleux de dire qu'il y a une liste noire. Non, c'est scandaleux, c'est qu'il puisse y en avoir. Et elle a répondu du côté de France Inter, ils n'ont pas répondu parce que là, ils n'iraient vraiment à l'évidence. Alors on a répondu pour France Culture, j'étais apparu quelques fois, ouais, quand il y a un stagiaire pendant les vacances, il n'est pas au courant, il m'invite. Et puis il y avait aussi un journaliste qui faisait une journée d'interview qui m'a invité plusieurs fois pendant deux ans, mais il n'est plus là. Et voilà, donc c'est terminé. Donc le moins que l'on puisse dire par rapport à d'autres, c'est que je ne suis pas persona
grata. Non, grata, exactement. Mais alors parce que, est-ce que je peux vous poser la question, Pascal Boniface? Vous posez problème, vous dérangez, vous bousculez les lignes?
Ben, je pense que je respecte pas les codes. Je respecte pas les codes, effectivement. Alors, il y a d'une part, quand même, soyons clairs. Hein, alors, bien sûr, il y a tout de suite l'accusation antisémitisme qui ressort, mais bon, on est quand même, c'est quand même plus difficile dans les médias de critiquer Israël que de critiquer les Arabes ou les Palestiniens. Je pense que quand même, c'est quelque chose. Bon, mais surtout, une fois encore, j'ai pu résister à cette après la publication de mon livre Est-il fallu critiquer Israël, mais c'est quand vous critiquez les figures tutélaires du monde médiatique. Bah là, les gens n'aiment pas, et quand ils ont les moyens de dire quand même, ce type n'est pas fréquentable, il n'a pas respecté les codes, etc. Une fois encore, j'apparais dans certains médias, je suis pas banni de partout.
Oui.
Mais une fois.
Alors
encore,
ça veut dire quoi, banni des médias? Vous avez un carton rouge, vous êtes blacklisté, persona non grata?
Bah écoutez, dites-moi les fois où je suis passé sur France Inter, quelles que soient les occasions. Non, depuis des années, et plus jamais. Je suis passé une fois récemment suite à mon agression à Tel Aviv. Parce que quelqu'un m'avait mis en cause nominalement sur la matinale et que je voulais un droit de réponse. Bon, il m'a été accordé sur une autre tranche et dans un autre moment. Mais voilà, c'est bon. En même temps, ce qui me console, c'est le soutien d'une grande partie du public. C'est les messages d'encouragement, c'est le succès que rencontrent mes vidéos, mes bouquins, etc. Les gestes de sympathie que beaucoup de gens m'envoient parce que...
Y compris ceux de Beurre FM, je vous le dis clairement.
De Beurre FM, oui. Parce que, bah, disons que quand même... on me reconnaît. Disons, ce qui m'est reproché par certains, c'est de ne pas céder, de ne pas jouer le jeu, comme on dit, mais plutôt les autres sont plutôt le grand public et plutôt reconnaissant.
Plutôt reconnaissant. Donc, est-ce que vous avez un message à livrer si à tout hasard, on vous est écouté ce soir évidemment, auprès des personnalités, des vedettes de Radio France.
Bah, je crois que de toute façon, c'est sans espoir, parce qu'il y a aussi une autre règle, c'est que si vous critiquez les médias, ils vous bannissent. C'est-à-dire que les médias aiment bien critiquer, mais ils ont horreur d'être critiqués. Alors que normalement, le jeu démocratique, c'est de pouvoir critiquer. Donc je sais très bien qu'en ayant fait ça, c'est pas ça qui va m'ouvrir les portes des médias que je viens de critiquer. Elles me sont fermées. Mais disons que je trouve qu'il vaut mieux mettre un peu le projecteur sur ce qui ne va pas et ne pas se contenter de faux fuyants en disant « tout va très bien, la madame marquise », etc. Quoi. Non, les choses ne vont pas très bien, autant le dire.
Autant le dire. Bon, écoutez, vous ne lâcherez rien, j'imagine, mon cher Pascal Boniface.
Bah, c'est un peu tard maintenant. Hein.
Oui, bon. Écoutez, Pascal Boniface, vous avez parlé de votre public et de vos auditeurs, ils sont là et ils vous soutiennent. Eh bien, merci pour ce billet d'humeur, pour votre édito, Pascal Boniface, le patron de l'ERIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. À la semaine prochaine, avec autant de plaisir.
Merci à vous pour votre soutien.
Merci, 17h36, on marque une courte pause et on reçoit donc les débatteurs, les influenceurs qui vont confronter leur point de vue, vous savez, sur les quatre sujets qui ont retenu notre attention. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
17h43, le grand déballage, et on va accueillir tout de suite, avant de vous accueillir, chers amis, 0153-48-3000, un auditeur, justement, qui vient de nous appeler et à qui, évidemment, on va donner la parole pour l'entendre. Karim, bonjour, vous nous appelez de Paris, Karim. Karim.
Bonjour, Adil, et bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on vous écoute, mon cher Karim.
Oui, je voulais juste en parler par rapport à la vaccination. Je pense que il faut laisser vraiment le choix à tout le monde de faire, voilà, s'il souhaite se faire vacciner ou pas. Il est absolument primordial de ne pas le rendre obligatoire parce que, évidemment, beaucoup de gens estiment que la balance risque et bénéfice n'est pas vraiment dans le sens de se faire vacciner quand on est.
Vous avez raison, beaucoup se posent cette question. Vous-même, est-ce que vous allez vous faire vacciner, Karim?
Moi, personnellement, non. J'ai une quarantaine d'années.
Pourquoi?
Parce que j'estime qu'on n'a pas assez de recul sur les traitements qui ont été, sur les vaccins qui ont été produits en quelques mois. Ouais. Et de l'autre côté aussi, j'estime que, c'est pas vraiment une épidémie de l'ordre de l'Ebola ou des épidémies vraiment qui sont dangereuses. Pour le pronostic vital des gens. Donc, franchement, quand on fait la balance entre le risque pré qu'on se fait vacciner par un vaccin qu'on connaît pas et ce qu'on risque quand on attrape ce virus, franchement, je pense que ça vaut pas le coup si on n'a pas de pathologie à côté ou si on n'a pas de risque, de problèmes cardiaques.
Bon. Eh bien, merci.
Ils vont pas nous imposer, en tout cas, les vaccinations pour voyager, etc. Ouais.
Mais merci pour vos points de vue, Karim, et merci de votre fidélité. 0153-48-3000, continuez à nous appeler. Nadir Kaya, bonjour.
Adil, bonjour. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Nadir Kaya.
Merci pour l'invitation.
Elisabeth Lévy est sur le chemin. Elle s'est excusée. Elle vient de nous dire qu'elle arrive. Donc écoutez, je vais accueillir Emmanuel Dupuis. Bonjour.
Bonjour Adil. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Et enfin, le retour de Thomas Guénolet. Bonjour.
Bonjour.
Messieurs, tout de suite, nous allons parler dans la belle transition d'un auditeur concernant la... Tiens, je vais vous faire réagir. Est-ce que vous comptez vous faire vaccination? Vous savez, je vais vous sortir une déclaration. La vaccination obligatoire est nécessaire dans une société démocratique. Ça, c'est jugé par la Cour européenne des droits de l'homme qui estime que, effectivement, on peut quand même... elle est nécessaire. Qu'est-ce que vous répondez, vous, Nadir Kaya?
Alors, moi, je suis pas juriste, mais j'émettrai des doutes. Après, je prendrai simplement l'exemple du personnel médical qui aujourd'hui, je crois que c'est un tiers du personnel médical de santé en France qui s'est vacciné, donc l'autre ne l'a pas fait. Donc ça démontre que déjà dans ce domaine-là, pour ces professionnels-là, il y a déjà des doutes sur ce vaccin et son efficacité. En plus, comme l'a rappelé justement le monsieur juste avant, l'auditeur disait que il n'y a pas d'éléments scientifiques qui démontrent sa véracité, sa capacité à réellement régler le problème de cette Covid. Donc à partir de là, déjà moi personnellement, je suis pas du tout amené à me faire vacciner, comme
vous
je ne suis pas pour la.
C'est quoi, vous êtes réticent?
Non, mais déjà par rapport à ces éléments, déjà les scientifiques eux-mêmes
dans le doute. Comme l'a dit le sénateur tout à l'heure, Fabien Gay, finalement je le rejoins un peu, il dit non mais attendez les amis, sur 100 000 personnes, on a très 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 peu, une infime pourcentage de gens qui ont eu des effets secondaires.
Oui, mais c'est pas grave, quand on sait qu'ils ont développé...
Ça fonctionne.
mais pas nécessairement.
Oui.
Faut voir dans le temps. C'est toujours comme ça qu'il faut voir les vaccins. C'est dans le temps, c'est pas sur l'instant. Et le problème, là, au vu de la situation, c'est que déjà les scientifiques eux-mêmes ne s'accordent pas à dire que c'est réellement efficace.
Oui.
Il va falloir traiter ça sur la durée. Et puis pour moi, personnellement, c'est un peu comme la grippe. Je suis pas vacciné contre la grippe, je peux l'avoir. Là, je pense qu'on a habitué les Français à avoir peur pour rien. On va s'habituer à ça comme le corps humain s'habitue à beaucoup de choses. Après, il faut continuer à vivre normalement. Et moi, j'accepte pas qu'on nous impose d'avoir une santé en fonction des instances ou des avis politiques. On est libre. C'est la première des libertés qu'on a. Libre de conscience, libre d'opinion, libre de choisir de se faire vacciner ou
justement,
pas.
Justement, on va regarder. Est-ce que ce point de vue est partagé notamment par Emmanuel Dupuy et Thomas Guénolé? Emmanuel Dupuy.
Alors, est-ce que je vais me faire vacciner? J'ai pas besoin d'être vacciné parce que j'ai été Covidé. Donc, pour l'instant, la question ne se pose pas. J'aimerais être vacciné. Néanmoins, je ne fais partie que des 261 Français qui se sont inscrits. Vous savez, l'Ordre des médecins s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient réticents à la vaccination. Donc, il y a des vaccins qui vont être perdus. Et donc, il y a une liste qui s'appelle Covid List et qui vous permet éventuellement d'être vacciné si les vaccins sont en disponibles. Alors moi, je suis assez d'accord avec Nadir.
Merci.
La question, c'est pas tellement d'être le caractère obligatoire, c'est le caractère nécessaire. Je rappelle quand même que quand nous naissons, nous sommes automatiquement vaccinés sans l'assentiment des parents.
Oui.
Je fais la liste: diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B, oreillon, rubéole, rougeole, coqueluche.
Hein.
À la naissance, sans autorisation des parents, c'est obligatoire.
Obligatoire.
Donc la question peut être posée de savoir si oui ou non, mais en termes sanitaires, nous avons cette obligation d'être vaccinés à la Covid-19. Nadir l'a expliqué, le personnel médical est aussi obligatoirement vacciné. Je rajoute la tuberculose.
Finalement, ce ne serait pas choquant si on nous oblige à nous faire vacciner pour le Covid-19, non?
Ce qui est paradoxal, pardonnez-moi, mais je crois que c'est là que tu vas en venir.
Oui.
C'est que ce soit obligatoire pour un certain nombre de maladies moins graves que la Covid.
Voilà. Ouais.
Et pour la Covid, ce serait facultatif. Ça n'a pas de sens.
Après,
vous avez vu ce qui vous a listé?
Oui, j'ai vu.
Après, il y a des trucs relativement bénins et la vaccination, comparativement.
Après,
la vaccination est obligatoire.
Je vous redonne la parole. Emmanuel Dupuy.
Après, la question, c'est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme a autorisé la vaccination. Elle ne nous l'a pas imposé. L'Académie des sciences le recommande. Après, encore une fois, on n'est pas dans une hypocratie ou dans lequel les médecins se remplaceraient le pouvoir politique. C'est au pouvoir politique de savoir si oui ou non nous voulons vivre dans une société où effectivement nous sommes un peu pris en otage. J'ai écouté ce matin une épidémiologiste qui évoquait le fait qu'elle émettait des doutes sur la décision politique prise par Emmanuel Macron en disant « De toute façon, il ne faut pas réouvrir le pays car nous sommes à l'aune d'une quatrième vague.
Ouais. »
Et je me pose la question, si nous sommes à l'aune d'une quatrième vague, qu'est-ce qui empêchera une cinquième, une sixième, une septième?
Ouais.
Donc la vraie question, c'est peut-on vivre avec la vaccination ou pas, sachant que mécaniquement, le taux d'immunisation...
Mais quand je vous écoute... Alors, je vais laisser Thomas Guénolé, mais quand je vous écoute vous deux parler, on ne va jamais s'en sortir, les amis. Hein.
Si,
si personne ne se fait vacciner, le virus va continuer.
Non, mais le virus va continuer. C'est plutôt quand on écoute
circuler,
le gouvernement et les politiques qu'on va pouvoir sortir.
Oui, mais attendez, messieurs.
Ah bah si.
Mais si personne se fait vacciner,
parce qu'eux sont censés prendre des décisions sur la base de scientifiques, donc eux-mêmes, les scientifiques, ont du mal à se positionner de façon unanime. Donc, à partir de là, comment veux-tu que les politiques arrivent à trouver une décision qui soit claire et limpide pour tous les Français? Notamment quand on regarde
de
la communication qu'il peut y avoir depuis le départ.
Il y a Thomas Guénolé. Mais si je vous entends parler, vous dites en train... Non mais attendez, on attend de voir ce que ça donne les effets secondaires. Écoutez, c'est un peu trop tôt pour le vaccin parce que là, ça vient de sortir. Et en même temps, le virus, il circule. Et je devais parler avec le sénateur tout à l'heure, le département de la Seine-Saint-Denis, une hausse de 53% de décès, les amis.
Ah oui,
Thomas Guénolé.
Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée que ce serait quand même mieux qu'à un moment donné, cette épidémie s'arrête, en ce qui nous concerne au moins. Là, on parle de la France.
Si on ne se fait pas vacciner, ça n'arrêtera pas.
Si, il y a deux façons d'arriver. Si on se dit les choses dans toutes leurs brutalités, il y a deux façons d'en arriver à la fin de l'épidémie. La première façon, c'est nous atteignons l'immunité collective en n'ayant rien, aucune protection, pas de vaccin, rien. Et donc, on a tous ceux qui, sans protection, devraient en mourir, vont en mourir. Et à la fin de ça, vous avez plusieurs centaines de milliers de morts dans ce pays. C'est ça que ça veut dire, hein, pas de vaccination, pour info. C'est à ça dont on parle. On n'est pas sur un débat théorique. Si on ne fait pas de vaccination ou si on en fait trop peu, on va petit à petit vers plusieurs centaines de milliers de morts. C'est un fait. Mmh. Et à la fin, la bonne nouvelle, dans la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une immunité collective après s'être tapé plusieurs centaines de milliers de morts. Ça, c'est le premier chemin possible.
Mais quand
le deuxième
dans
chemin possible.
Dans un an, dans deux ans, dans trois ans.
Et avec les conséquences économiques que vous imaginez, c'est-à-dire.
Les conséquences sociales.
Voilà. Deuxième possibilité, je vous dis juste, je vous mets les trucs sur la table. Hein. Deuxième possibilité, on se fait vacciner, mais pour que ça marche, c'est-à-dire pour que ça arrête la circulation du virus, il faut qu'il y ait un pourcentage suffisamment élevé.
Plus de 60%.
Plus de 60% de la population qui soit vaccinée. Et donc, maintenant que je vous ai posé ça, dans la mesure où moi je ne souhaite pas qu'on en passe par plusieurs centaines de milliers de morts pour arriver à terminer cette épidémie, je suis pour la vaccination et donc je vais me faire vacciner dès que j'en aurai le droit.
Vous allez vous faire vacciner ?
Pour l'instant, je suis trop jeune. Donc, voilà, mais quand je le pourrai, j'irai me faire vacciner, bien sûr.
Sans problème.
Pas vraiment pour moi, mais surtout pour les gens qui, contrairement à moi, risquent de mourir de cette maladie. C'est-à-dire des gens qui ont des comorbidités, etc., etc. Je vais plus le faire pour eux que pour moi, pour être franc. Même s'il y a des risques de tracas pour
quel
moi.
Quel acte?
Qui est, non, mais c'est ce qu'on appelle la vaccination altruiste. C'est
oui,
comme
c'est
ça.
Altruiste. Oui.
Et d'autre part, je suis effectivement pour la vaccination obligatoire parce qu'il faut avoir les 60%. J'ajoute plusieurs choses. Je ne comprends pas.
Ça vous
pas.
Fait sourire, mais je vous pose une question vers vous.
Excusez-moi juste, je voudrais terminer l'argumentation. Simplement. Je vois pas pourquoi en France il serait obligatoire d'avoir une assurance sur sa bagnole, mais facultatif de se vacciner pour un truc qui a déjà fait près de 100 000 morts en France.
Ouais.
J'avoue que le raisonnement me dépasse, très franchement. Et deuxièmement, on l'a mentionné tout à l'heure, moi, on évoquait tout à l'heure à votre antenne, je suis depuis peu papa d'une toute petite fille. Ça fait, je crois, trois fois qu'on passe à la PMI pour aller faire les vaccins. Et dans les choses contre lesquelles on les vaccine parce que c'est obligatoire, il y a des choses beaucoup moins graves que la Covid. Et donc, c'est juste pas logique que pour la Covid, ce soit facultatif, alors que c'est obligatoire pour des choses beaucoup plus bénignes.
Ouais.
Et donc, tout ça pour dire, par ailleurs, que le consensus de la communauté médicale sur le fait qu'il vaut mieux se faire vacciner que d'en passer par l'immunité collective au prix de centaines de milliers de morts.
Je suis même très surpris que vous disiez tout ça, parce que vous, Thomas Guénolé, je m'attendais plutôt à
non, moi, je suis
dans un registre de théorie du complot, etc.
Pas du tout.
Mais moi,
je suis scientifique. Agréablement, je raisonne purement du point de vue de la logique et du point de vue de la démonstration scientifique.
Ouais.
À partir des données qu'on a et par rapport à des gens qui, contrairement à moi, sont des experts en épidémiologie, moi, je les suis dans cette idée-là. Encore une fois, le choix n'est pas pour ou contre la liberté de se faire vacciner. Le choix est entre vaccination facultative et plusieurs centaines de milliers de morts, ou vaccination obligatoire jusqu'à ce qu'on atteigne le palier des 60%. Et une fois qu'on atteindra le palier des 60%,
alors Nadir Kaya,
avec ce raisonnement, on revient quand même sur le fait de savoir s'il faut se vacciner ou pas, ou si c'est bien ou pas.
Mais
in fine,
encore une fois, est-ce qu'on
avec
veut
les éléments que tu donnes, hein,
avec les éléments que je donne simplement, c'est ce que tu dis absolument. C'est que juste si je n'atteins pas les 60% de population vaccinée, se faire vacciner ne sert à rien par rapport au fait d'arrêter l'épidémie. Il faut donc que la vaccination soit obligatoire.
Ouais.
Ça me paraît totalement logique.
Il faut qu'elle soit possible aussi.
Ouais.
Parce qu'on parle de choses qui, pour l'instant, sont quand même loin d'être la réalité. Hein.
La faisabilité de la vaccination de masse, c'est un deuxième sujet.
On a tous en tête l'objectif quand même particulièrement ambitieux, hein, 20 millions... De vacciner d'ici mi-mai, 30 millions d'ici mi-juin, ce qui voudrait dire, puisque j'ai fait un petit peu le calcul, qu'il faudrait 500 000 injections
par semaine.
Alors je vous interromps, on doit lancer la pub. Lance la pub.
On en est à 250.
Et je vous retrouve tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, 01 53 48 3000, à tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beur FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Le grand déballage, c'est avec Nadir Kaya. Le grand déballage, c'est également aussi avec Emmanuel Dupuis et Thomas Guénolé. Et puis, je viens d'apprendre que Elisabeth s'est retrouvée coincée un peu dans les bouchons, un peu comme,
tout à fait.
Comme vous, Nadir Kaya.
Il faut pas oublier qu'on est vendredi. C'est le départ des vacances officielles, même si les choses ont été décalées.
Oui, c'est vrai.
Le périphérique est saturé, là.
Il est saturé. Alors, dites-moi sur la vaccination et puis on passe au second sujet. Concernant la vaccination, un petit tour de table. Comme ça, on va clore le débat et puis on va passer à autre chose. Que peut-on apporter comme élément supplémentaire, Thomas Guénolé?
La stratégie française et européenne de vaccination est-elle efficace, d'abord? Bien non, puisque si on compare la population déjà vaccinée dans les différentes zones, au Royaume-Uni, on est déjà à la moitié de la population qui est vaccinée, aux États-Unis, c'est un tiers, et en France, en Allemagne, en Italie, c'est seulement 14%. Donc la stratégie européenne, pas seulement française, dans toute l'Europe, est un échec. Pourquoi? parce que l'Union européenne n'a pas osé être protectionniste. Les États-Unis, ils ont gardé leur propre production de vaccins et ils l'ont gardé intégralement pour eux. Nous, on a été assez débiles au niveau de l'Europe pour exporter
40%. Débile.
Débile, entendez ça.
N'exagérons pas, Thomas Guénolé, non plus. Ne nous faites pas passer non plus pour des.
Non,
j'irai pas débile, j'irai naïf. Macron a été
naïf. Peut-être naïveté, mais débile. Mais attendez, on gère une gestion de crise, mon cher Thomas Guénolé. Vous en rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire, en gros, ils sont débiles.
Laissez-moi finir.
Mais débile, Emmanuel Dupuis, c'est mot. C'est terrible d'entendre.
C'est violent.
C'est violent.
L'Union européenne, en pleine crise sanitaire, a exporté 40% des vaccins produits en Europe. Oui, c'est débile. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont gardé.
Je laisserai le son aux auditeurs 0153-3000 de réagir. Elisabeth Lévy, bonjour.
Je sais pas si j'ai dit bonjour, pardon.
Vous vous êtes retrouvé coincé dans les bouchons, dites donc.
Oui, c'est Madame Hidalgo. Non, là, c'est pas Madame Hidalgo.
C'est Madame Hidalgo, j'adore. Elle s'attaque.
Cette fois, c'est pas Madame Hidalgo, mais d'habitude, c'est elle.
Bon, ravi de vous retrouver. Toute nouvelle voix parmi nous.
Pardon.
Oui.
Ravi
de vous retrouver.
Merci, très
bien.
Oui,
bienvenue, welcome.
Moi aussi, je suis ravi. Oui. Je suis un peu énervé d'être en retard, c'est pour ça. Donc, je vous prie de m'excuser. Je prie les auditeurs de m'excuser. Et je réfléchissais à ce que disait Thomas Guénolé.
Alors, réagissez, justement. Parlons-en.
Non, mais sur le fond. Sur le fond. Je suis d'accord, mais c'est pas une question de débilité, en fait. C'est vrai. J'aurais envie de dire ça. C'est que, tout simplement, l'Union européenne n'a pas de volonté politique. C'est aussi bête que ça. Si vous voulez, l'Union européenne n'étant pas une nation, n'ayant pas un peuple à protéger, en réalité, nous élisons des dirigeants et ces dirigeants veulent nous protéger, que ce soit pour être réélus ou parce qu'ils ont l'intérêt général chevillé au corps, probablement par un mélange des deux. Si vous voulez. Et c'est ça une nation. C'est ça la force vitale d'une nation. Si vous voulez, ça tient à cela. Et l'Union européenne, par définition, n'a pas ça. C'est une bureaucratie épouvantable qui met trois fois plus de temps que les autres à tout faire. Où vous avez les défauts, pardon, je finis.
Oui,
les défauts de l'administration française multipliés par 26.
Oui.
Ça peut pas marcher mieux. Si vous voulez,
est-ce que vous-même, vous irez vous faire vacciner, Elisabeth Lévy?
Absolument.
Vous êtes un peu comme Thomas Guénolé, sauf pour les deux autres. Vous irez.
Ah oui, j'irai me faire vacciner et je pense, pour tout vous dire,
je pense
que ça ne me dérangerait pas que ce soit obligatoire. C'est-à-dire, si on a le choix, en fait, entre d'énormes restrictions de toutes nos libertés pendant tout le temps, c'est-à-dire que on est bien obligé d'accepter un certain nombre de restrictions de nos libertés au nom de l'impératif sanitaire. Eh bien, celle-là me paraît être la plus indolore.
Oui, parce que
c'est une fois
l'assignation. Oui, parce que l'assignation.
Mais c'est un one shot.
L'assignation. Ouais. Les gens ne savent pas ça. En droit, l'assignation en résidence, c'est une peine administrative de prison.
Oui, absolument.
C'est-à-dire que nous avons tous été assignés
Madame,
à
messieurs,
résidence.
On va retrouver notre éditorialiste.
Et
maître,
on nous dit, il faut pas se vacciner,
s'il
on a
vous
la liberté,
plaît, il est 18h01. Voilà, exactement. Merci, monsieur le Réal, pour la petite sonnette. Il est 18h, c'est l'édito de maître Philippe-Henri Honegger.
Le grand déballage, l'interview de la semaine.
Alors, les dîners clandestins, vous avez décidé de faire de ce choix et le choix de votre billet d'humeur. Bonjour, maître.
Oui, bonsoir, vous allez bien?
Très bien, mon cher maître Philippe Honegger. À vous la parole, le dîner clandestin.
Oui, je sais pas si vous connaissez ce jeu qui s'appelle le cadavre exquis. Vous savez, on se met autour d'une table, chacun écrit un mot sur un papier, puis le cache, et puis le suivant écrit un mot sans savoir ce qu'a dit le précédent, puis après on lit la phrase qui donne à peu près n'importe quoi.
Oui.
Je dois vous dire que l'actu de cette semaine me donne un peu l'impression d'un cadavre exquis.
C'est-à-dire
que si un jour on m'avait dit que un collectionneur d'art, fan de Napoléon, qui ressemble à Paul Naref, se retrouverait en garde à vue.
Vous parlez de Napoléon, et j'ai sous les yeux Napoléon, c'est la couverture d'Elisabeth Lévy avec son causeur. C'est quand même incroyable. Ah ben
voilà. Et donc, un fan de Napoléon ressemblant à Paul Naref se retrouve en garde à vue pour avoir organisé un dîner de poissons d'avril avec des ministres. Bah c'est le cadavre exquis, je vous aurais jamais cru.
Ouais.
Et pourtant, c'est l'actualité de la semaine. Et puis, comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes, et visiblement, le parquet dans cette affaire a décidé d'utiliser le plus grand remède. Alors, à défaut de pouvoir administrer le vaccin à tout le monde et d'avoir trouvé un médicament contre le virus, on décide d'appliquer la loi pénale et donc de mettre en garde à vue des gens pour organiser des dîners. Alors, vous me direz, c'est pas la première fois, ça fait 2-3 mois que le parquet s'est pris d'envie d'utiliser cette infraction de mise en danger de la vie d'autrui contre des gens qui organisaient soit des fêtes chez eux, soit des réveillons, soit maintenant des dîners privés ou payants en tous les cas, mais dans un cadre privé organisé par des personnes. D'utiliser cette infraction, qui, il faut quand même le rappeler, avait fait l'objet d'une circulaire au mois de mai 2020, dans laquelle la chancellerie avait dit « n'utilisez pas cette infraction, elle n'est pas faite pour ça ». Et donc, malgré cela, on continue. Et je voulais simplement vous expliquer pourquoi c'était une aberration totale de venir utiliser l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. La mise en danger de la vie d'autrui, c'est une infraction qui est définie à l'article 223-1 du code pénal, qui dit qu'il est condamnable le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation manifestement délibérée d'une obligation fixée par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez une obligation qui est fixée par la loi. Par exemple, interdit de sortir de chez vous après 19h, obligation de mettre un masque, distanciation sociale. Vous violez cette obligation qui est fixée par la loi et vous mettez directement en danger immédiat de mort une personne. En réalité, cette infraction, elle a été créée, vous savez, par exemple, vous allez faire du ski, vous allez en hors-piste, vous déclenchez une avalanche, vous tuez quelqu'un.
Exact.
Il y avait l'interdiction d'aller hors-piste, vous avez déclenché une avalanche et vous avez mis en danger de mort immédiat une personne. Mais dans le cas du Covid, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout parce que certes, il y a une obligation qui est fixée par la loi, certes, vous la violez en organisant un dîner ou une fête. Certes,
clandestin.
C'est clandestin, c'est-à-dire
oui, précisons-le.
Donc on est dans la violation, on est dans la violation. Certes, vous pouvez peut-être quelque part mettre en danger la personne parce qu'il y a une maladie qui court, mais il faut que ce danger il soit immédiat et il soit de mort immédiat. Et c'est là que ça marche pas du tout, parce que le Covid, on le sait très bien, c'est un danger potentiel de mort, mais dans des cas quand même extrêmement rares, et que surtout, le danger de mort n'est pas immédiat. Il faut l'attraper, il faut le développer, et puis il faut soi-même avoir des comorbidités. Mais surtout, ce qui ne fonctionne pas, et c'est ça qui est totalement paradoxal, c'est que c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Et il faut que cet autrui, lui-même, j'allais dire, soit innocent du fait d'être mis en danger. Et dans le fait d'organiser un dîner dans lequel on ne respecte pas les distanciations sociales ou dans lequel on ne met pas de masque. Mais les personnes qui viennent, c'est-à-dire ces autrui, sont eux-mêmes coupables de la mise en danger de la vie d'autrui, des autres.
Oui.
C'est-à-dire qu'en vrai, on est en train de vous dire, je vous reproche d'avoir mis en danger la vie d'autrui par vous-même, parce que vous êtes vous-même l'autrui que vous mettez en danger en participant. Vous êtes donc à la fois co-auteur de l'infraction et victime de l'infraction. Et en fait, c'est pas possible. Et c'est pour ça que la chancellerie avait dit que c'était pas possible. C'est pour ça que ça fait des mois qu'on dit que c'est pas possible. Et que malgré tout, le parquet continue de faire ça. Et en fait, dans ce cadavre exquis qui est l'actualité de cette semaine, ce qu'on sait, c'est qu'on n'arrivera pas à aller au bout de cette procédure. Et c'est-à-dire qu'encore une fois, on a une justice qui instrumentalise le système judiciaire dans une démarche qui est strictement politique, c'est-à-dire, oulala, vous avez mis en cause des ministres, on va vous montrer qu'on est très très actifs et que les ministres sont totalement innocents, et on va utiliser la justice pour et les moyens de la justice, et on va mettre des personnes en garde à vue, c'est-à-dire une contrainte très importante sur leur liberté,
maître, hein.
Simplement pour faire un geste politique. C'est déprimant. Moi, j'aimerais qu'on soigne les gens, j'aimerais qu'on prenne des dispositions correctes, et j'aimerais qu'on arrête d'utiliser le droit pénal pour rien. C'est vraiment absolument déprimant. Ce jeu, puisque le cadavre est exquis d'un jeu, ce jeu qu'on fait avec l'actualité, avec les gens.
Maître Philippe-Henri Honegger, merci pour ce billet d'humeur et merci surtout de nous rappeler en permanence chaque vendredi, vous savez. Évidemment, l'aspect juridique, c'est vrai cette approche, moi je ne l'avais pas vu comme ça. Merci maître, et à la semaine prochaine, avec autant de plaisir.
À la semaine prochaine.
Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkas.
18h07, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, avec Elisabeth Lévy, le grand déballage avec Nadir Kaya, avec Emmanuel Dupuis et avec Thomas Guénolé. Allez, on va passer à ce second sujet. Ce sera la consultation anonyme du rock qui va durer des mois et des mois et qui parle, vous savez quoi, des discriminations. J'aimerais juste une petite question comme ça, évidemment, parce que moi, je suis content de vous accueillir ici, Elisabeth Lévy, chez nous, à la radio Beurre FM. Mais je sais aussi que je voulais juste vous poser une question que beaucoup d'auditeurs se posent. Pourquoi vous avez tapé sur Beurre FM ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Quand est-ce qu'on a tapé sur Beurre FM ? Quand vous avez eu l'affaire avec
oui.
Parce que l'histoire me paraissait effectivement pas très pas très emblématique, mais il y a une loi qui interdirait de vous critiquer quelque part.
Non, bien au contraire.
La ferme
non,
paraissait, vous si, savez, vous voulez, la radio. Si vous voulez, la position qui a fleuré sur Israël dans cette histoire me semblait très une position tout à fait critiquable, ouais, et me semble savez, toujours.
Et vous savez que la radio, et non, justement, on a répondu, vous savez que la radio a alors, répondu aux
différents médias. J'ai pas suivi l'affaire depuis, excusez-moi.
Ah,
j'ai...
voilà.
Voilà, mais est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur la chronique de l'avocat?
Oui, bien sûr, allez-y. Ah, moi, il vous écoute, il est
voulais,
là.
Eh ben, je voulais dire d'abord que j'étais vraiment très contente d'entendre ça, mais il oublie un aspect. Il y a un aspect politique, mais il y a un aspect, malheureusement, répondre aux affects de l'opinion.
Ah.
Et si vous voulez, l'affect que j'appellerais populiste, en l'occurrence, tout le monde dit le populisme, c'est affreux, mais si ça, c'est pas populiste, de dire aux gens, regardez, ces salauds de riches, ils mangent dans de la vaisselle dorée, des repas à 500 balles, pendant que vous prenez des amendes de 135. Pour, voilà. Et, si vous voulez, il y a un affect un peu, comment dire, sans culotte, qui est pas ce qu'on a de mieux, qui est un peu les passions tristes. Que je trouve assez terrible dans cette affaire. Moi, je me fiche complètement que des gens aient mangé des repas à 500 balles, et ça ne me fait pas la moindre envie.
Exact.
Et je trouve qu'on devrait vraiment ignorer cela. Plutôt
après
que
la réaction donc de Maître Philippe Henneguer, qu'on retrouve dès la semaine prochaine.
Vous êtes
madame,
d'accord?
Madame,
ah bah
monsieur.
Voilà.
Ah bah oui, ah bah il est d'accord, Nadir Kaya. Nadir Kaya, c'est rare qu'il soit d'accord. Hein. Attention.
Non, mais ça dépend le sujet. C'est même pas une question d'individu ou de personne, c'est le sujet en lui-même.
Il faut qu'on avance, absolument. J'ai pris un peu de retard, s'il vous plaît. Je veux absolument qu'on parle. Je sais que le sujet vous est cher, cher, très cher, vous, Nadir Kaya. C'est le lancement d'une consultation citoyenne sur les discriminations. Ça fait 40 ans qu'on en parle.
LOL.
Ouais, bah voilà, LOL. C'est ça que je voulais entendre. LOL. Pour quelle raison? Parce que la ministre, justement, de l'égalité des chances, vous savez quoi? Elle a décidé de lancer ce rapport qui a été rendu public, évidemment, avec comme objectif d'alimenter le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie. Prévu. Et une consultation citoyenne. J'ai l'impression, je fais un tour de table. C'est le pays des consultations?
Non, mais c'est surtout, on a l'impression que c'est un gouvernement qui découvre certaines choses. On l'a déjà évoqué dans des précédentes réunions. La France, c'est le pays des rapports. Il y a tout un ensemble de rapports dans des salles fermées, dans les ministères, sur telle ou telle situation en France, notamment sur les discriminations, sur le racisme, sur les inégalités. À un moment donné, il faut passer à l'action. Mmh. Mais malheureusement, les Français, de façon générale, acceptent ce qu'on leur propose, ce qu'on leur donne à manger, sans être méchant ou vulgaire.
Oui, oui.
Je suis désolé. Le gouvernement, aujourd'hui, réagit à l'opinion publique. L'opinion publique est formatée à accepter certaines choses ou ne pas accepter certaines choses. Et c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement.
Mais elle dit, Madame Elisabeth Moreno, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, il n'y aura aucun sujet tabou. Toutes les situations de discrimination doivent être mises sur la table. Mais ça veut dire quoi, ça? Elisabeth Lévy. Elle justement parle. Non, mais je voudrais qu'on en parle, parce que ça fait juste 40 ans qu'on en parle.
Non, mais là, je vais mettre les pieds dans le plat.
Allons-y.
J'espère que vous êtes tous assis, parce que je sais que ça va vous énerver, si vous voulez. Je pense.
C'est le grand déballage.
Je pense que notre grand problème, si vous voulez, c'est d'être devenu le pays de la pleurnicherie, le pays de la plainte. Ouais. Je pense, si vous voulez, que la France est un des pays les moins racistes du monde, que des discriminations, évidemment, des discriminations où vous choisissez pas plutôt qu'un autre. Il y a toutes sortes de raisons qui sont, à mon avis, très peu souvent le racisme. Si on, je sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais on prendra des exemples.
Ah, c'est le sujet.
Je ne crois pas que ce soit le racisme,
c'est le sujet,
par
c'est
exemple.
Le sujet.
Il y a un peu de tout, c'est vrai.
Non. Je vais vous expliquer, par exemple, dans l'immobilier, si vous voulez, les gens, le locataire idéal, c'est le couple d'homosexuels, parce que pas d'enfants.
Dans certains quartiers.
Attendez. Pas d'enfants, ils ont du fric. Deux homosexuels arabes ou noirs, etc., seront plus facilement pris qu'une famille avec six enfants qui risque de faire du bruit et de dégrader un appartement. Je vous donne un. Oui, mais je m'en fiche, on va pas passer.
Si, c'est une forme de discrimination.
D'accord, mais c'est bien parce qu'il faut. Alors, je vais vous poser la question.
Ouais.
Parce que... D'accord, mais alors, est-ce que c'est grave? On n'a pas le droit de choisir quand on est. On choisit. La discrimination, c'est un choix. Quand c'est un système, c'est un autre problème.
Or,
je ne crois pas, contrairement à vous, je ne crois pas que ce soit un système, et surtout. Ce que je voudrais vous dire, puisqu'on est dans une radio qui s'appelle Beurre FM, et là je m'adresse à vos auditeurs. 30 ans de pleurnicherie, de plainte, de regarder toujours ce qui ne va pas, de se plaindre toujours, d'accuser toujours la France, d'accuser toujours les autres,
mais
sans jamais...
Mais qui accuse la France
ce de... Mais écoutez, de quoi on est en train de parler? Vous êtes en train de nous dire qu'on n'en parle
ceux
pas
ceux qui c'est... se sentent discriminés, c'est ça que vous voulez dire?
Oui.
C'est intéressant.
J'en ai ras-le-bol. Je trouve que la France est un pays où il y a beaucoup d'opportunités et que mettre l'accent de temps en temps, si vous voulez, que le statut de victime qu'on a vendu à tout le monde, à tout le monde. Tout le monde veut être victime. Eh bien, ils n'aident personne. Et en particulier,
alors,
pas
Elisabeth
les gens
Lévy. Elisabeth Lévy.
Qui peuvent subir par ailleurs de réels.
Dans l'ordre. Il y a Thomas qui m'a demandé la parole et ensuite Emmanuel Dupuy.
C'est pas grave.
S'il vous plaît, Thomas Guénolé.
Non, mais
on a entendu. Mettons les pieds dans le plat. Thomas Guénolé.
Oui, je vais revenir simplement au sujet que vous évoquiez, la consultation en ligne organisée par le gouvernement.
Oui.
Je pense que c'est inutile et qu'on perd du temps pour rien, parce que les chiffres, on les a déjà. Donc, il n'y a pas besoin de faire une consultation. Les discriminations à l'embauche. Les immigrés maghrébins et subsahariens sont deux fois plus au chômage que le reste de la population.
Oui.
C'est un fait. Les contrôles de police, les hommes maghrébins et subsahariens sont cinq fois plus contrôlés que le reste de la population.
C'est une réalité.
C'est un fait.
C'est dommage parce que je fais partie d'un collectif qui a fait condamner l'État sur les contrôles aux faciès.
Exactement. Je termine de donner juste des faits. Les discriminations à la location. 27% de chances en moins pour un candidat maghrébin à la location de voir son dossier accepté avec le même dossier, sauf qu'il a un nom maghrébin. Ça s'appelle du testing quand vous faites ce genre de vérification.
Alors, j'aime bien vos chiffres.
Et je termine.
Elisabeth, vous dites qu'il faut arrêter de pleurnicher.
Qu'est-ce qu'ils font
sur toutes ces personnalités qui se font discriminer tous les jours?
J'en ai un dernier parce que c'est un sujet dont on parle peu par rapport aux autres discriminations. Les discriminations bancaires. À Lyon, il y a quelques mois, vous avez une étude scientifique qui a été faite. Pour le même dossier de demande de prêt, dans 6 agences sur 9, le taux d'intérêt demandé sera plus élevé pour le candidat maghrébin.
Bon, Emmanuel Dupuy.
Elisabeth, écoute 2 secondes. Avec un test, on se connaît. Avec un test où les deux candidats ont le même dossier à un pouillème près, sauf que l'un des deux a un nom à consonance maghrébine. Ça s'appelle du testing. Seule différence. On est d'accord.
Très bien. Dans ces cas-là, c'est très simple. Tu vas à la justice et ce que j'essaye de dire. D'abord, c'est qu'une.
Ensuite, Emmanuel Dupuy.
Une partie de ces chiffres me semble contestable et je vais prendre un autre exemple.
Mais c'est l'INSEE.
C'est l'INSEE. Pourquoi? Parce que c'est du déclaratif.
Non.
Qu'est-ce que fait Madame Moreno?
C'est du testing.
C'est
du testing. C'est ce que je t'ai dit.
Mais le testing, c'est pas pour. Je peux finir une.
Non, mais c'est juste.
On va pas y arriver.
Je te dis juste.
Sinon, j'arrête.
Elisabeth, je te dis juste que c'est pas du déclaratif.
Tes chiffres ne concernent pas tous du testing. Les 5%.
Ceux que je t'ai donné,
les 5 fois plus de chances d'être contrôlés.
Si, c'est du testing.
Laissez-la, s'il vous plaît, Thomas Guénolé.
Allez-y.
Elisabeth Lévy, Emmanuel Dupuy.
Peut-être Emmanuel Dupuy, vous voulez y aller. J'ai beaucoup parlé.
Allez-y.
Ce que j'essaye de dire.
Finissez votre phrase.
Je ne crois pas à ces chiffres complètement. J'ai pas dit qu'ils étaient tous faux. Comme je ne crois pas aux chiffres des femmes qui ont subi des agressions. Parce que quand on regarde certaines études, 50% des femmes ont subi des agressions. Or, on le saurait.
Ça dépend desquelles tu parles. Si tu inclus les attouchements dans le métro, c'est 90, en fait.
C'est cela. Alors oui, c'est ça. Donc je vis sur la planète Mars, je prends jamais le métro, si tu veux, parce que, excuse-moi, c'est n'importe quoi. 90% des femmes, donc c'est bien pour ça, c'est parce que c'est déclaratif. Mais je vais prendre un exemple, un seul exemple.
Ensuite, après Emmanuel Dupuy.
Les contrôles aux faciès.
Oui.
Oui, on est plus contrôlés, non pas... Je pense quand on est noir ou arabe, parce qu'un noir ou arabe en costume cravate n'est pas, je veux dire, et j'en ai entendu plein me le dire, j'ai des copains noirs et arabes, je veux dire, et je suis navrée, ils ne m'ont jamais raconté cette affaire, on est plus contrôlé quand on a une apparence qui correspond à un certain type de population. Pourquoi? Parce que les délinquants sont surreprésentés dans cette population. Alors c'est certainement injuste. C'est ce qu'on appelle du profilage. C'est-à-dire que si tu cherches des dealers de shit, effectivement.
Ah bah
tu vas plutôt contrôler des gens qui ont des capuches.
Là, Nadir Kaye ne sera pas d'accord avec vous. S'il vous plaît. Emmanuel Dupuy et Nadir Kaye qui n'est pas d'accord. C'est très bien.
Donc,
Emmanuel Dupuy.
Personne. Alors,
s'il vous plaît, Thomas Guénolé.
Moi, je trouve que cette polémique n'a pas vraiment lieu d'être.
Si. Ça diverge.
Capable d'être parce que finalement, le rapport qui, au demeurant, ne devait pas être un rapport, mais un grand sondage. Vous savez, la Macronie aime bien, dans la logique de la comitatologie, inventer plein de choses.
De la quoi ?
Comitatologie, c'est-à-dire la création de comités théodules. C'est ça dont on est. Et d'ailleurs, je fais référence à l'excellent édito d'Elisabeth Lévy qui...
Dans Causeur,
qui évoque le fait qu'il y aurait une sorte de substitution où on viendrait remplacer une culture de ce qu'on appelle la gauche woke ou la cancel culture qui consisterait à dire qu'il faut s'excuser sur tout. Et je fais la jonction là-dessus. Et je réponds d'une phrase. Pourquoi avoir une consultation sur les différents sujets, il y en a 8 hein, précisément oui. dans cette consultation nationale. Thomas les a évoqués, le logement.
On a déjà les choses. Oui, les a tous évoqués. Et oui, j'ai les mêmes chiffres
tout
que
ça,
lui.
Tout ça j'ai est déjà dans la loi ou dans les lois. Donc à un moment ou un autre, plutôt que de créer des nouvelles consultations, plutôt que de ressonder.
C'est juste la énième consultation, hein.
Ben justement.
Depuis 40 ans.
Non, non, c'est pas la énième consultation depuis 40 ans. C'est une consultation que le président Macron avait voulu comme obligatoire, remettant en cause un certain nombre de choses qui se trouvent déjà dans des lois. Je rappelle que la loi sur la sécurité globale regroupe un certain nombre de processus législatifs qui sont déjà validés. Donc moi, c'est la méthode qui me semble un peu spécieuse.
Allez,
de
18h.
Inventer de nouveau.
18h18, je suis obligé de lancer la pub. On se retrouve, ne bougez pas, restez avec nous. Avec Elisabeth Lévy, Nadir Kaya, Emmanuel Dupuy, Thomas Guénolé. À tout de suite, ne bougez pas.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Vous venez de nous rejoindre et le débat continue. 18h26 en direct, le grand déballage sur Beurre FM avec Elisabeth Lévy, avec Nadir Kaya, Emmanuel Dupuy et enfin Thomas Guénolé. Nadir Kaya, on vous a pas entendu. Et notamment.
Quoi
sur, eh ben, sur quoi sur bah, la
d'habitude, on m'entend un peu trop.
Sur, et puis notamment la question qui a été soulevée par Elisabeth Lévy tout à l'heure.
Non, mais
alors, Nadir Kaya.
J'entends ce que dit Elisabeth Lévy, et comme beaucoup de Français, je la vois dans les médias, et je sais sa position de façon générale sur certains sujets, notamment les sujets qui concernent les banlieues,
ouais.
l'islam et tout ça.
Bon, parlons-en.
Et c'est ce qu'on disait en off. Bon, moi, j'ai un certain âge aujourd'hui. Je comprends ce qu'elle dit, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des positions victimaires qui ne sont pas entendables ou qui ne sont pas entendues par certaines personnes de l'autre côté. Je peux comprendre parce que ces gens-là ne le vivent pas. Après, même moi, je peux rappeler qu'il existe des situations et donc rappeler que je suis victime de certaines choses, mais je passe au-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, il faut passer à autre chose. Il est là le vrai défi.
Non, mais c'est quand que... on est victime, on ne dit pas simplement on est en train de pleurnicher. C'est pour ça que j'ai essayé de discuter
certains...
tout à l'heure.
Madame Lévy,
Elisabeth Lévy, c'est que il y a une réalité aussi.
C'est-à-dire qu'il y a une... Non, mais c'est pour ça. Après que. Si je peux finir, parce que c'est un peu compliqué après, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Sur le... on a à dire qu'il y a fini.
C'est très gentil à vous. Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a des choses qu'on peut pas résumer comme ça en une phrase ou en un slogan ou avec un mot. C'est compliqué. Il y a des gens en France, et de toutes parts, hein, parce que moi, tu le sais très bien, Adil, je suis très critique aussi sur les banlieues, et notamment sur la violence issue des quartiers, qui est propre aux quartiers, les incivilités, les trafics de drogue,
c'est
la
vrai,
radicalisation.
Vous le rappelez ici régulièrement.
Ça me vaut beaucoup d'insultes et de violences, même de la part des gens de chez moi, entre guillemets, issus des quartiers populaires. Quand je dis chez moi, c'est des Français qui vivent dans les quartiers populaires, ça j'insiste bien là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on parle de victimisation... moi j'ai été, je le suis encore, des fois j'ai des sujets, bon je vais pas en parler là, on n'a pas le temps, mais à partir de là, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on peut dire je suis victime, d'autres peuvent l'entendre ou ne pas l'accepter, c'est un point de vue, maintenant c'est notre capacité à faire avancer la France. Et on le disait même en off, on a tous une façon de voir sa France par rapport à ses origines, son expérience, sa capacité à faire un tout et aujourd'hui à se sentir français de telle ou telle façon.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui habitent dans les quartiers populaires qui vous dites qu'il y a une France à deux vitesses?
Ah bah, moi, alors,
Une société, et puis il y a le quartier populaire.
Ah bah
mais vous leur répondez quoi?
Je leur dis à ces gens-là de s'engager pleinement en tant que citoyens.
Mais ils sont engagés, Nadir Kaya, arrêtez de dire qu'ils ne sont pas engagés.
Non, ils ne le sont pas parce que la très grande majorité.
La majorité
sont
engagés,
dans
mon cher Nadir.
Je te le dis, preuve en est en tant que militant associatif. Globalement, aujourd'hui, les quartiers populaires ne votent pas. Ça, il faut le savoir. Donc, si on vote pas, on se désintéresse de
mais
ce qui se passe.
Mais pourquoi ils ne votent pas?
Contre,
il y a un divorce avec la chose politique.
Et c'est là qu'on se plaint beaucoup. Et là, ça démontre qu'on est des vrais Français. Des bons
comme
Français, parce
Pierre
que les Français
Bourdieu.
Sont réputés être des...
Absolument. Ça, vous avez parfaitement raison.
Oui, mais, merci.
Parce qu'en fait, cette affaire victimaire.
Mais on se plaint de tous bords.
Certainement pas limité au quartier. Si vous voulez, d'abord, le statut victimaire, maintenant, se transmettrait des générations après. Je suis navrée pour moi, si vous voulez. Et de même façon pour aujourd'hui, si vous voulez. Je veux dire, moi, c'est pas parce que je suis juive, si vous voulez, que je me sens victime directement de la Shoah. Je peux me sentir concernée par une histoire,
oui,
etc. Mais je ne me sens pas victime. Et de même, excusez-moi de me dire qu'on est, je veux dire, descendant d'esclaves aujourd'hui, pour moi, n'a pas un sens énorme. Ça fait des, c'est-à-dire, vous pouvez, ça peut être votre histoire, ça n'a pas un sens dans ce qui vous arrive aujourd'hui. Si vous voulez, le ressentiment historique.
Ça, c'est
ne
votre
mène
opinion, parce que c'est important ce que vous dites.
Voilà. Le
si
ressentiment,
que hein.
ce soit le cas ou pas, le ressentiment historique ne mène à rien. On ne peut pas se transmettre le statut victimaire de génération en génération. Si vous voulez. Ensuite, on en arrive
alors
à
là,
qui va être.
Je suis désolé, il y a un sociologue qui a fait un livre, je ne sais plus son nom, je l'ai vu vite fait sur Internet, qui a fait un livre sur l'héritage des enfants des colonies. comme des enfants, des colonisateurs. Et les deux héritent de cette situation que vous vouliez ou non. Preuve en est, vous avez encore des gens, et moi j'en suis la preuve sur les
donc réseaux sociaux. Donc l'héritage de la colonisation,
par exemple. Il y a encore des gens qui nous disent retourne en Algérie, ouais. C'est l'arabe, c'est le bougnoul. Mais c'est des gens qui n'ont pas vécu.
Je vous ai parlé à dessein de l'esclavage. Ouais. J'ai pas parlé précisément parce que la colonisation, je suis pas d'accord sur la colonisation, mais j'aurais pas employé le même argument parce que la colonisation, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus récent. Si vous voulez, l'indépendance algérienne date d'il y a 50 ans. Oui,
60 ans.
Donc, si vous voulez, j'ai parlé de l'esclavage. Excusez-moi, ça s'est quand même arrêté.
Comme ça reste une forme de violence, une domination.
Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à mon avis, de la même. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont intégrées parce que c'est devenu un statut enviable. Et ça n'est pas que dans les quartiers, c'est pour tout le monde. Tout le monde, toutes les femmes veulent être victimes. Et juste, dernière phrase, promis, même en supposant qu'il y a des raisons. Ce que j'essaye de vous dire, si vous voulez, c'est de vous rappeler la phrase de Kennedy, pense à ce que tu peux faire pour ton pays. Au lieu de penser toute la journée à ce que la France ne t'a pas donné, d'accord? Au lieu de penser toute la journée à ce qui ne va pas, d'accord? Pense un tout petit peu à ce qu'est l'école, à ce qu'il y a dans ce pays, qui est, où honnêtement, je pense que, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais je pense que c'est un des moins racistes du monde, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a une espèce d'habitude.
On est très bien en France, malgré certaines choses.
Voilà.
Sans
donc,
plaisir, mais il n'y a pas
si
de
problème. Or ça, pardon.
Thomas Guénolé, Emmanuel Dupuy, et on passe au second sujet.
Je suis désolé, parce que c'est passionnant, et nous.
Non, vous avez raison. Non, mais il faut. Voilà. Vous avez dit, mettons les pieds dans le plat, on les met. Thomas Guénolé.
Plusieurs choses. D'abord, les jeunes de banlieue, moi, il se trouve que je vis avec, puisque j'habite
pas ce terme-là. Les jeunes. Il n'y a pas que des jeunes en banlieue.
Non, mais tu permets, écoute, j'ai laissé parler, j'aimerais quand même. Bon. Donc, les jeunes de banlieue, moi, je vis avec. Les jeunes de banlieue, j'entends par là des jeunes qui vivent dans les quartiers populaires, c'est tout. Et donc, je voudrais simplement dire que les jeunes de banlieue ne se voient pas eux-mêmes comme des victimes. Ça, c'est pas vrai. Les gens qui ne le sont pas.
Oui.
Et qui en parlent sans les connaître, ont facilement soit un discours de diabolisation, c'est-à-dire le monstrueux jeune de banlieue, violeur, pillard, tout ce que tu veux, soit.
Ou terroriste,
tant qu'on y est, il a des grosses journées, hein, le monstrueux jeune de banlieue, tu vois, dealer de shit, violeur dans les caves et compagnie. Soit ils ont au contraire un discours de victimisation permanente. C'est pas comme ça que les jeunes de banlieue se voient eux-mêmes. Ils se voient comme des gens qui subissent une injustice massive et quotidienne.
C'est ce que je voulais dire.
Ce qui n'est pas la même chose.
Elisabeth.
Et ils comptent sur eux-mêmes pour s'en sortir. Et j'en ai une preuve très simple. Il suffit de lire ou d'écouter. Mais je recommande même, en fait, de les lire, les textes du rap français, qui sont, à mon avis, les meilleurs porte-parole des jeunes de banlieue.
Ça fait sourire, Elisabeth.
Il faut écouter. Non, mais écoute, lis du Kerry James, lis la Mafia Cafri, lis Sofiane, lis des trucs comme ça.
D'accord,
et ces choses-là.
Fais-moi une liste de choses que je dois lire. Medine,
avec plaisir.
Medine,
etc. Oui. Il y a plusieurs textes qui montrent bien que l'idée, c'est de s'en sortir. Que l'idée, c'est de s'en sortir par soi-même en subissant des injustices qui ont assez duré. Deuxième chose, sur le contrôle aux faciès, là, tu employais tout à l'heure l'argument que c'est logique par rapport à la réduction de la délinquance. C'est un outil qui sert à ça. Je voudrais répondre à cet argument. Parce que en fait, il passe crème dans des discussions. Je voudrais te dire pourquoi je le trouve absurde. Voilà, je vais te dire. Imagine, je braque une banque demain. Je braque une banque. À la sortie de la banque, j'ai mon sac de sport rempli de billets de banque. Je suis interpellé par des policiers qui me demandent mes papiers d'identité. Je sors ma carte d'identité. Mes papiers sont en règle. Ils me disent circuler. Je sors avec le butin de mon braquage de banque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un contrôle d'identité ne sert en aucune façon à réduire la délinquance. Ce sont des conneries. C'est purement logique.
Excuse-moi, alors tu vas apprendre leur métier aux policiers.
Alors, certainement, vous donne la parole,
Emmanuel. Non, mais certainement, Thomas,
alors,
certainement.
Je vais juste répondre.
Certainement, Thomas, les policiers font bien cela parce qu'ils sont racistes et qu'ils veulent persécuter les jeunes.
C'est pas ça. Ils veulent faire du chiffre. Non, ils veulent faire du chiffre. Ils veulent faire du chiffre sur le fait de repérer des sans-papiers comme ça parce que ça leur permet d'avoir leur prime de fin de mois.
Pourquoi ils font des contrôles aux faciès quand ils sont dans les quartiers populaires?
Ils ne le font que.
Pourquoi ils font des contrôles aux faciès dans les quartiers populaires?
Ils ne le font que pour repérer des sans-papiers.
Mais non.
Je peux donner un exemple.
D'abord,
s'il vous plaît,
dans les quartiers populaires, quelle est la population? Donc ils vont contrôler dans ces quartiers populaires. Quelle est la population? Il y a énormément de gens issus de la diversité. En conséquence, vous pouvez pas dire d'un côté il y a des ghettos et de l'autre côté il y en a pas. Donc,
oui, mais ça dépend de la population.
D'accord. Donc effectivement, si tu fais des contrôles dans ces zones-là, il y a assez peu de chances. Tu contrôles peu de blancs. Je veux dire, mais je ne crois absolument pas que ce soit dicté par le racisme.
Je te dis juste que ça réduit pas l'insécurité. Je viens de te le démontrer. Si tu commets un délit, t'appelles tes
policiers. Non, mais bon, enfin moi je veux bien qu'on ait des discussions.
si je peux me permettre, c'est surtout pas efficace. Mais... Il faut regarder ça en termes d'efficacité, c'est pas efficace. Pourquoi ?
C'est pas efficace.
Parce que c'est surtout absurde, vous l'avez bien compris. De façon générale, que ça soit la BAC, la BAC et d'autres, connaissent les dealers, connaissent les trafiquants, connaissent les fouteurs de merde. Je vais vous donner un exemple, le mien, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait contrôler en voiture, sans raison apparente.
Par la BAC ?
Non, c'était des policiers habillés. J'ai pas fait d'infraction, j'ai posé la question. Bon, certes, j'étais dans une ville dite populaire où il y avait une forte population, peut-être maghrébine ou noire, mais ils ont passé
en même temps, chez vous, c'est pas flagrant, franchement, ça se voit pas au faciès, justement.
Pour moi, ça me fait plaisir. Parce que des fois, on traite souvent de bougnou.
Je dirais pas, franchement.
Je suis pas bien rasé. Donc, c'est pour vous dire que j'ai demandé aux policiers.
Oui, ça fait une sœur.
La raison, il a pas été capable, mais il m'a dit c'est juste un contrôle de police. Si vous voulez, je fais partie de ceux qui sont habitués à ça. Mais ça me dérange pas, mais je suis habitué.
Nadir Chahia.
Je suis obligé de le rappeler.
Donc, fatalement, vous avez fini par l'adhérer.
Mais on est obligé autrement
de faire ça. Vous êtes en train d'admettre.
Je vais me rebeller, je vais parler d'une certaine façon, on va parler d'outrage pour faire du chiffre.
J'ai fini par l'admettre à m'habituer évidemment à cela.
Mais bien sûr qu'on est habitué. Mais comme on est habitué à la violence dans les quartiers, ou certaines
violences. Moi je l'entends, c'est terrible.
Ou l'incapacité des politiques de
régler les problèmes des quartiers. Et comme certaines personnes sont habituées à se faire emmerder dans leur cage d'escalier. C'est-à-dire que ce que j'essaye de vous dire simplement, c'est que si sur chaque truc.
Donc on banalise.
Mais c'est pas qu'on banalise. Je dis simplement que ça me paraît, si vous voulez, passer son temps. Moi, je connais plein de gens, si vous voulez, que ça obsède pas du tout. De même, si vous voulez, enfin, bon, je veux pas lancer un autre débat, mais j'arrive toujours pas à trouver des vrais gens qui soient offensés parce que Gérard Darmon s'est mis en Othello en noir. Si vous voulez, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit réellement offensé par ça. Eh bien, je n'arrive pas à trouver, si vous voulez, vraiment que dans notre société, ce soit, si vous voulez, que les gens soient victimes de telles injustices. Je n'y crois pas, c'est tout.
Emmanuel Dupuis.
J'essaye de vous dire que cette ambiance construite autour de ça ne sert pas. Ouais. Moi, je pense que ce que j'ai envie de dire à ces jeunes, et c'est, je pense que notre débat devrait porter là-dessus, la question sur laquelle on n'est vraiment pas en accord, c'est est-ce que les gens, les minorités en France, les minorités, il n'y a aucune truc de valeur là-dedans, doivent s'adapter ou pas.
Revenons à l'intégration, à l'assimilation. De nouveau encore.
S'adapter à ce qui serait la culture française.
Non. Là, vous lancez un autre débat sur qu'est-ce qu'être français. Emmanuel Dupuis. Lancez quelque chose de test.
Emmanuel Dupuis. Par la République.
Exactement. Emmanuel Dupuis.
C'est un deal.
Emmanuel Dupuis. Et puis ça lance le sujet qu'est-ce qu'être français.
Je suis un bon élève centriste, donc j'écoute et j'assimile tout ce qui a été dit. Je rappelle quand même de ce dont il est question, c'est. Premièrement, de la communication, parce que ça ne va pas servir à grand-chose. Deuxièmement, toutes les questions qu'on a posées là ne seront même pas abordées dans le projet.
Ça, c'est
parce
vrai.
Que le projet dont il est question, c'est un plan national contre les discriminations, contre toutes les formes de discrimination, l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme. Et bien, c'est précisément là où je veux en venir. À quoi ça sert de faire un nouveau plan, puisqu'il y a des lois qui ont déjà été votées. Et de nouveau, on en revient à un débat qui me semble la plus structurant, c'est-à-dire que ces consultations, ces sondages, cette manie de lancer des comités Théodule vise non pas à donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer, mais à des associations dont on justifie l'existence parce qu'elles se font le porte-voix, le porte-parole, et parfois sans aucune légitimité,
comme pour
la loi séparatisme, plus légitimité.
On n'a pas consulté les musulmans. Voilà.
Comme pour la loi séparatisme ici.
Bah oui, on n'a pas consulté les musulmans.
Je voudrais qu'on aborde le troisième sujet, c'est la suppression de l'ENA. Parce que vous savez pourquoi ? Évidemment, il était question. Non, mais c'est une belle transition. Parce que est-ce qu'on n'est pas dans un effet d'affichage ? Parce que finalement, le fait de supprimer l'ENA, est-ce que ça va résoudre les vrais problèmes ? C'est ma grande question que je vous pose. Et on vient juste
d'inégalité,
après.
D'inégalité, c'est ça ? De
exactement. Mais
c'est un symbole, ça reste un symbole.
On lance la pub, on se retrouve tout de suite après le grand déballage. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beur FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Et le débat continue, y compris pendant la pub. 18h45, qu'est-ce que le temps passe vite et il file. Elisabeth doit partir, doit nous quitter parce qu'évidemment, elle doit rejoindre le plateau CNews.
Ah oui, un peu plus tard, mais.
Bon, je vais vous libérer.
Pourquoi elle nous quitterait pour CNews ?
C'est
pour être à l'heure. Alors, on va parler.
Attendez. Merci.
Alors, d'abord, merci aussi. Partagez, sachez-le. Vous reviendrez ?
Oui, avec plaisir. Je vois qu'on a des tas de désaccords.
Avant de vous libérer, un petit mot quand même sur les inégalités et cette question de suppression de l'ENA. Et en même temps, Emmanuel Macron qui tend la perche au quartier populaire, qui dit « Vous avez autant la place que les gens du 16e, etc. » On va y arriver un jour.
Ah, mais
ou pas
bien sûr, attendez.
C'est, ah oui, bien sûr, c'est vite dit.
Précisément, d'abord, je crois qu'une réforme de l'ENA, c'est très bien. Par exemple, je vais très vite. Il y a plus d'humanité dans la formation des gens, donc c'est complètement absurde. On ne forme les gens qu'à être des experts techniques en ceci ou en cela. C'est complètement, à mon avis, ça, c'est un crime même de renoncer à la culture générale, aux humanités. Et bien sûr, si vous voulez, je suis très attaché à ce qu'on appelait avant l'égalité des chances. Donc, par exemple, je ne suis pas du tout pour qu'on baisse le niveau. Ce qu'on essaye, ce que la gauche a fait tout le temps, si vous voulez, parce que, excusez-moi, elle prend en réalité ces populations-là pour des... Trouve qu'il y a une forme de mépris dans le fait de dire on va leur changer les concours. Quoi.
C'est du paternalisme.
Je crois que tous mes concitoyens sont parfaitement capables...
Moi, je suis un peu d'accord avec Elisabeth.
Tous mes concitoyens sont parfaitement
c'est
capables...
C'est vrai que je me souviens quand même de Mitterrand, voilà. Où il avait un côté un peu paternaliste.
Ça suffit, ce truc. Donc,
moi, ça m'a marqué quand même.
Ça veut dire qu'il faut
en
peut-être.
Physique, chimie, n'importe quel élève de filière scientifique aujourd'hui explose ses grands-parents.
D'accord.
Ce que j'essaie... Ou en histoire géo, cours d'histoire géo de la génération de tes parents, d'accord. Si tu les lis aujourd'hui,
c'est pas ridicule. Ça. Attends, mais.
Elisabeth,
Thomas, tu.
Sur la baisse du niveau, c'est pas vrai, ça dépend des matières.
Il a répondu sur un truc que je pense, il me connaît tellement, mais que j'avais pas dit. Donc, ça complique la discussion. Non, je termine juste là-dessus.
Je
pense qu'il ne faut pas changer, évidemment, le niveau pour s'adapter. À quelques populations que ce soit. Pourquoi ? Parce que je pense que tous les gamins, on peut leur donner les moyens, s'il faut faire des classes prépa particulières pour que les gens qui viennent des lycées,
C'est violent ce que vous dites quand même, parce que ça voudrait dire que, entre guillemets, ce que vous avez dit tout à l'heure en termes de, j'aime pas cette sémantique, la diversité, donc amener de la diversité, ça va baisser le niveau automatiquement ?
Ça veut dire que quand on prononce le mot diversité, qu'est-ce qu'on fait ? On dit je vais supprimer la culture générale, parce que vous comprenez, c'est ça qu'on fait, c'est ça que je conteste.
Ah oui, bah ça craint.
Parce que je considère moi
que
dire on va supprimer la culture générale parce que c'est discriminatoire pour nos pays arabes me paraît être raciste. Voilà, c'est ça.
Elisabeth.
Donc, si vous voulez, et juste la dernière chose pour l'ENA, peut-être ça peut être votre. Parce qu'à l'évidence, on a un problème avec nos élites, mais il faut des élites. Le problème, je ne suis pas sûr que d'embaucher des gens quand ils ont 22 ans, si vous voulez, et qu'ils fassent toute leur carrière dans l'administration, va amener de la diversité de gens, si vous voulez. Là, je ne parle pas de la diversité dans le nouveau sens. Je parle simplement, si on veut avoir des profils variés, il faut recruter à 40 ans quelqu'un qui a été médecin, ou quelqu'un qui a été ceci, ou cela, ou animateur.
Exact, c'est pas faux. Voilà. Je vais faire un tour de table. Elisabeth, je vous libère.
Merci beaucoup, je vous prie.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous prie de m'excuser, ainsi que les auditeurs, de cette arrivée tardive et de ce heureux. Mais c'était vraiment un peu coincé aujourd'hui.
À très vite.
À très vite.
À très vite. À très vite. Allez, on vous libère. Je vous libère. Allez-y. Ne ratez pas, évidemment, votre présence au plateau. Nadir Kaya, tour de table quand même. Emmanuel Dupuis.
Oui, alors déjà, il ne s'agit pas d'une suppression.
Ce que disait Elisabeth Lévy, elle a raison.
Je suis d'accord.
Côté paternaliste, moi, si vous voulez. On en a bouffé quand même.
Ce changement dans les contenus va bien plus loin que l'ENA. Moi-même qui suis universitaire, je me rends compte où effectivement ce qu'on enseigne aux universitaires, à nos étudiants, ne sont plus tout à fait les mêmes sujets, non pas discriminants, mais diplômants. Non, mais cette histoire de suppression, Adil, n'évoquez plus la suppression de l'ENA. Il ne s'agit pas de ça.
Il s'agit de
premièrement, il y a un changement sémantique. On a ripolliné un petit peu l'ENA. D'ailleurs, l'ENA va rester dans les mêmes locaux à Strasbourg, que ce soit l'Institut du service public qui maintenant va fédérer 13 grandes écoles.
Il a raison, hein, l'ENA n'est pas supprimée. Elle a juste
pas
changé
du tout.
De nom.
Elle a juste changé de nom et c'est une ordonnance.
C'est pour ça que je parlais d'affichage tout à l'heure.
C'est une ordonnance. Alors là, ça ce serait effectivement une vraie révolution.
Est-ce qu'on peut parler d'un effet d'affichage ?
Bah, évidemment.
Donc les deux sont légitimes.
C'est évident. Et je rajoute un élément. Emmanuel Macron s'est lui-même pris... Alors, évidemment, il a commencé sa campagne électorale. Parce qu'il répond à une demande qu'il avait lui-même formulée.
Tardivement.
Dans le grand débat, on est en avril 2019, où il répond à une demande des Gilets jaunes qui focalisent leur attention sur l'ENA, comme si l'ENA, contrairement à d'autres grandes écoles, est le seul bouc émissaire. Et effectivement, il y a une distanciation entre nos élites, qui parfois n'ont pas le contenu universitaire ou le contenu académique qui... sied au métier qu'ils vont faire. La meilleure preuve en est, c'est que quand vous êtes inspecteur des finances à 24 ans ou à 25 ans, ça ne fait pas de vous un administrateur d'une société, alors même qu'on vous met en capacité d'avoir cette fonction. Moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, beaucoup amusé et, je dois dire, énervé dans cette énième réforme de l'ENA, je rappelle que c'est un serpent de mer, Il y avait déjà eu mon ami Thierry Rambaud qui avait été chargé de la réforme de l'ENA, ça n'avait pas abouti. Frédéric Thiriez avait été chargé d'un report, ça n'avait pas abouti. Et je crois que cette réforme n'aboutira pas pour les mêmes raisons. Mais Emmanuel Macron, étant fidèle à lui-même, non seulement vise d'une certaine manière à dire qu'on va réformer l'ENA, et qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une nouvelle superstructure, une délégation interministérielle, je cite, à l'encadrement supérieur de l'État, comme si on avait encore besoin de tout cela.
Messieurs, 18h51, j'ai pris un énorme retard.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, notre éditorialiste, le billet d'humeur par le docteur Majid, c'est aussi une chef de service à l'hôpital Sainte-Camille qu'on retrouve chaque vendredi. Mon cher docteur, bonjour.
Bonjour Adil.
Alors, c'est ce vendredi, vous avez décidé de parler de la suppression de l'ENA. Dites-nous tout.
Eh bien, écoutez, Adil, il n'y aura pas pour l'instant de loi permettant le suicide assisté en France. À titre personnel, je ne suis pas très favorable, sauf cas très particulier, parce que je pense que plutôt que l'on devrait développer la prise en charge en soins palliatifs pour la rendre accessible facilement à tous les patients qui en ont besoin. Alors qu'aujourd'hui, nous déplorons chaque jour plusieurs centaines de morts dans notre pays, nous venons d'apprendre qu'en dehors du cadre de la loi, un suicide assisté, voire un meurtre, va être organisé.
Ah.
Le président Macron vient de condamner à mort un de nos trésors nationaux, l'ENA.
Ah.
Cette remarquable institution qui a produit des cadres émérites depuis l'après-guerre mondiale, pas la guerre sanitaire, vient d'être sacrifiée. Le costume à rayures a été battu par le gilet jaune. Nous allons perdre beaucoup, notamment nos boucs émissaires favoris. La vaccination est un échec. C'est la faute des énarques. On ne peut rien faire de simple en France, c'est la faute des énarques. Et il faudrait à la fois dégraisser le mammouth, un choc de simplification, mais en même temps, comme on est en France, on voudrait plus d'État avec moins d'État.
C'est ça.
On n'a peut-être pas le courage de dire que si les énarques sont si puissants, c'est sans doute que la classe politique est médiocre. Rendez-vous compte, les énarques, maintenant qu'ils vont disparaître, vont être collectors, comme les deux chevaux. Les vélos Manu France, les montres LIP, et tous ces souvenirs d'une France produisant de la qualité. Ce sera bientôt du dernier chic dans les dîners parisiens d'avoir un énarque à sa table. On pourrait d'ailleurs, vous en êtes d'accord, monter une start-up pour louer les derniers représentants de cette classe. Pourquoi pas, par exemple, pour une rupture de jeûne du Ramadan.
Ah, c'est génial, j'adore.
Partager une chorba avec un inspecteur des finances en costume rayé, dissertant sur la circulaire qu'il va pondre pour normer la composition et la taille des briques et le nombre de rondelles d'oignons qu'il doit y avoir, ce serait très intéressant. Mais moi, voyez-vous, Adil, je crois que j'ai compris la vraie raison de la disparition de cette institution. C'est en fait un sabordage. Un ami bien informé me l'a expliqué. Les énarques, voyant que le président avait bel et bien l'intention d'ouvrir les grandes écoles et lieux de pouvoir à la diversité, ont préféré se faire harakiri plutôt que de voir ça. Mais qu'on se rassure, un énarque, c'est comme le phénix, il renaît de ses cendres. Et gageons que l'ISP ne sera pas bien différente de la défunte ENA. La technostructure est comme le crocodile, elle a la peau dure.
Exactement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci docteur Séoussine.
À votre service.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Merci mon cher docteur, on vous retrouve la semaine prochaine sans faute.
Sans faute.
Merci pour votre billet d'humeur et prenez soin de vous. Et je sais que vous êtes sur le front concernant le Covid à l'hôpital Sainte-Camille. Bon courage, mon cher docteur. Vous êtes parti ? Il est parti, le docteur.
Non, je suis toujours là. Je disais à bientôt, au revoir.
À bientôt, cher docteur. Messieurs, je suis contraint de vous dire au revoir. Je dois rendre l'antenne. Malheureusement, hélas, évidemment, je vous ai laissé l'espace, mais
tant mieux.
Il y a l'émission qui attend. Donc, Thomas Guénolé, à bientôt.
Avec plaisir.
Je suis désolé, mais là, ça y est, je rends l'antenne.
Il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'on a...
Politologue, vu, c'est très bien. Les centristes représentés par Emmanuel Dupuis et le président, le boss de l'Institut LIPSE. Merci d'être avec nous.
Merci Adil.
Président de Banlieue Plus, Nadir Kaya.
Merci Adil. Bonne soirée à tous, bon week-end.
Et je vous dis à très bientôt, messieurs. À la réalisation, c'était Yanis. Merci Yanis. Et puis les auditeurs 0153 48 3000. Merci à vous tous et la présence de Hamid qui est avec nous aujourd'hui. À la semaine prochaine, avec autant de plaisir.
Retrouvez le grand déballage tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.